Chers auditeurs, chères auditrices de Radio Galère 88.4 et de Radio Mono à Châlons-Champagne, je continue aujourd'hui. D'abord, je vous souhaite une merveilleuse année 2025 à tous et à toutes et à tous. Et je vais continuer à parler d'économie. On était en train de parler des économies africaines. La semaine dernière, on a reconduit l'émission qui avait eu lieu 15 jours avant et avant l'interruption des émissions dans le contexte des fêtes. Et on parlait de la Guinée équatoriale et des solutions qu'on pourrait lui proposer pour améliorer son économie et mettre en place des modèles de croissance inclusifs. Donc on avait dit qu'il fallait commencer à préparer l'après-pétrole et créer une rente pétrolière, mettre de côté la rente pétrolière pour le peuple et tout en continuant les exportations jusqu'à ce que les hydrocarbures soient moins utilisés, de façon à ce que ensuite, par la suite, la Guinée équatoriale puisse utiliser sa rente pétrolière pour faire harmoniser ses infrastructures de transport, notamment le chemin de fer, ainsi que la libre circulation des biens et des personnes avec les pays voisins. Et je préconisais que pendant cette période de mise en place d'une rente pétrolière, tout comme l'ont fait les pays de l'OPEP, les pays du Moyen-Orient, la Guinée équatoriale produise de l'énergie naturelle et évacue son surplus d'énergie naturelle vers les pays voisins, ce qui veut dire que les hydrocarbures, on continue à les exporter, mais on les utilise pas pour l'énergie sur place. Il faudrait, ce que je disais, une nouvelle génération d'accords sur les échanges d'énergie entre pays africains voisins, avec de nouveaux réseaux qui croissent sur le territoire africain. Deuxième solution, on avait préconisé de mieux partager les richesses et la valeur ajoutée, et notamment la rente pétrolière, qui doit d'abord servir en priorité à la population, dans un but d'exportation à l'international, dans un deuxième temps, afin que les échanges nécessaires à l'apport de capitaux en Afrique ne nuisent pas à l'objectif d'Afrique verte. L'exportation des hydrocarbures ne serait qu'un moyen d'apporter la manne financière sur le continent africain pendant la période où on continue à les utiliser dans le monde. Si on suit un programme bien mené d'énergie verte et d'économie inclusive, ainsi que de bioéconomie, dont le principal apport serait de recycler les richesses sur le continent africain, en ayant une bonne utilisation des capitaux liés au pétrole et au gaz naturel, ainsi qu'aux minéraux pour certains, on devrait pouvoir considérer que cela suffit en termes d'aide internationale. L'Afrique deviendrait ainsi non plus un continent en développement, mais un continent qui, bien plus avancé que nous, pays plus industrialisé, serait à la pointe d'une nouvelle manière d'envisager le développement et de le définir. Mais cela nécessite que l'expropriation de ces ressources naturelles et minières par les pays les plus développés s'arrête et que l'Afrique et les pays africains, et là j'avais donné l'exemple de la Guinée équatoriale, puissent profiter de cette manne pour elles toutes seules. Troisième solution, la Guinée équatoriale pourrait mettre en place une politique des prix réglementée par l'État pour lutter contre l'inflation générée par l'apport de devises. L'apport de devises vient encore une fois des produits pétroliers. Or, disposer à la fois d'un système national de contrôle prudentiel, donc j'explique ce que c'est que le contrôle prudentiel. Le contrôle prudentiel, c'est le contrôle par la banque centrale d'un pays ou d'un groupe de pays, comme par exemple la banque centrale de l'Union européenne, des flux financiers gérés par les banques. Et notamment de la capacité des banques à gérer leurs prêts et à rembourser lorsque les opérateurs leur demandent. Donc, disposer à la fois d'un système national de contrôle prudentiel, alors c'est simplement pour dire que le contrôle prudentiel s'est mis en place de manière assez exacerbée après la crise des subprimes de 2008, puisque c'est tout le monde se souvient qu'en 2008, il y a eu une crise financière très grave qui a mis en faillite beaucoup de banques et de grandes entreprises un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis et au sein de l'Union européenne, et que, en fait, à cette époque-là, il y avait très peu de contrôle prudentiel de la part des banques centrales et en fait, il y avait un phénomène de titrisation, c'est-à-dire qu'on titrisait tous les emprunts, même ceux qui n'étaient pas solvables et un jour, ça a craqué et les opérateurs n'ont plus pu rembourser leurs emprunts et donc les titres se sont effondrés. Et comme ces titres étaient détenus par une grande majorité de grandes banques, eh bien celles-ci n'ont plus pu continuer à financer des grandes entreprises et des grandes holdings, ce qui a conduit à une faillite. Et ça a commencé aux États-Unis, puis après ça s'est répandu un peu de partout, notamment en Europe, puisque les économies financières de l'Union européenne et des États-Unis sont étroitement liées. Voilà. Donc il existe par exemple au sein de l'Union européenne une autorité de contrôle prudentiel et la Federal Reserve Bank, la Fed aux États-Unis, a mis en place également un contrôle prudentiel d'envergure. À préciser quand même que ce contrôle s'exerce aussi sur les assurances. Donc disposer à la fois d'un système national de contrôle prudentiel, d'un marché mondial de capitaux et d'une inflation contrôlée est une mission difficile. Notamment lorsque le taux de change de la monnaie nationale est indexé sur l'euro, comme c'est le cas avec le franc CFA. La seule façon de réserver des économies saines en Afrique réside donc dans le fait de ne surtout pas réinjecter les capitaux étrangers venus de l'exportation de pétrole ou de gaz naturel dans l'économie nationale. Les États doivent au contraire, comme je le disais tout à l'heure, constituer des rentes qu'ils conservent en tant que réservoirs à fonds propres, sans les mélanger au reste du financement national. Ça leur permet de payer, d'arriver à la quatrième modalité, en finançant la santé publique, l'éducation et les infrastructures, et mener une politique de grands travaux pour créer des emplois. La Guinée équatoriale doit pouvoir bénéficier, comme les autres pays africains, de politiques occidentales visant à favoriser chez elle l'émergence d'un véritable système de couverture des risques pour toutes les populations. Ainsi, je proposais dans un de mes livres qui s'appelle « Revenu inconditionnel d'existence, budget et fiscalité » que l'État français commence par prendre les devants dans la lignée du discours de La Baule du 29 juin 1990 où François Mitterrand avait commencé à dessiner pour les États africains un agenda visant à instaurer davantage de démocratie en Afrique. À cette époque-là, il subordonnait l'aide occidentale et notamment française à ses efforts contre la corruption et la dictature. Aujourd'hui, le contexte politique a changé. Les États occidentaux sont concurrencés par d'autres pays dans le monde sur le continent africain. La Russie, la Chine, la Turquie, les États-Unis. Ils ne peuvent plus faire de chantage sur un autre chapitre que celle de l'accueil des réfugiés venus d'Afrique qui, et cela fait aussi partie de la nouvelle donne, sont venus, depuis notamment 2015, peupler les grandes villes européennes. Cela pose un problème sur le continent. Cela serait difficile, disent diplomatiquement dans un premier temps, et cela nécessiterait l'intervention des ambassades françaises ou d'autres États européens, avec la création en leur sein de services spécifiques. Mais cela finirait surtout, si cela était pris en relais au niveau européen, par porter ses fruits et par extension à développer tout un système mutualiste autour de la santé et de la couverture des risques de chacun, les ressortissants sur un territoire étranger d'abord, puis par extension l'ensemble de la population africaine. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que la solution que je préconise, qui réglerait à la fois le problème des réfugiés africains sur le continent européen ou ailleurs, ainsi que le problème de la non-couverture sociale des populations africaines, ce serait que les États africains conditionnent la venue sur leur territoire ou alors le maintien sur leur territoire des populations immigrées depuis 2015, issues d'Afrique, il y aurait obligation pour les États de départ, donc les États de provenance, de financer la couverture sociale de leur population qui vivent sur le continent européen. Alors ça pourrait se faire, je parlais de la France parce que je pensais à une politique d'abord nationale, mais bien entendu, ça serait évidemment bien mieux si c'était décidé au niveau de l'Union européenne. Tout au moins, la France, si elle en prenait les initiatives, pourrait-elle, moyennant la réussite d'une telle expérimentation, convaincre les autres États de l'Union européenne de faire de même. Ceci, je pense, ne demanderait pas mieux, sachant que la montée des extrêmes droites dans le continent européen, sur le continent européen, témoigne d'un mécontentement des pays de l'Union européenne. Donc, ce que je voulais dire, c'est donc si on obligeait ces États-là, il faudrait, comme je le disais tout à l'heure, faire une sorte de chantage en disant aux États africains, ben, si vous n'acceptez pas de prendre en charge la couverture sociale de vos ressortissants, eh bien, à ce moment-là, on les renvoie chez vous. Et donc, je pense que cela nécessiterait, bien entendu, ce ne serait pas dit de cette façon-là, mais quelque part, c'est un peu le sens du message qu'il faudrait porter, en l'assortissant, bien entendu, de toute une procédure à la fois diplomatique et institutionnelle. Donc, diplomatique, c'est pour ça que je parlais des ambassades, ça passerait par l'ambassade de France ou par les ambassades des pays de l'Union européenne qui prépareraient en amont une telle opération et convaincraient les États africains de la mettre en place. Et dans un deuxième temps, il y a un autre problème, c'est que bien entendu, comme chacun le sait, la majorité des États africains n'a pas les possibilités et les capacités d'opérer un tel financement. C'est très difficile, s'il n'y a pas de couverture sociale en Afrique, c'est en grande partie parce que les États africains n'ont pas gérer leurs finances publiques correctement. Et j'allais dire, je dis ils n'ont pas su, mais je suis un peu méchante, parce que s'ils ne l'ont pas fait, c'est en grande partie parce que ces pays-là ont été dominés d'abord par la colonisation, et ensuite on ne leur a pas fait de cadeau après les indépendances, et mis à part toutes les infrastructures de développement qui ont été mises en place par les pays occidentaux en Afrique, ces infrastructures-là et ces politiques d'aide au développement, c'est qu'une goutte d'eau dans un océan immense qui est l'océan de la spoliation des richesses de l'Afrique. Et donc, je ne vais pas faire tout un topo dessus puisque ce n'est pas le sujet de mon émission d'aujourd'hui. Mais bien entendu, si on mettait en place un tel système, j'ai parlé de chantage tout à l'heure, mais ce ne serait pas un chantage bête et méchant, forcément, il faudrait mettre en place des politiques de coopération avec les États africains volontaires pour les aider à financer un tel système de redistribution sociale. C'est pourquoi je pense que cette idée pourrait être mise en place dans un premier temps sur un échantillon de population faible, de façon à en permettre le financement. Et cet échantillon de population faible, il est déjà tout trouvé. Il se trouve pas encore à l'intérieur des pays africains eux-mêmes. Il se trouve dans les populations qui sont immigrées en Europe. Ou alors, si on voulait se restreindre à la France, en France. Donc, faire cette expérimentation-là pendant une petite période de 3 ans, comme aujourd'hui dans la Constitution, là, par exemple, vous avez l'article 37-1 qui permet de déroger à certaines des dispositions de la loi à titre expérimental. Souvent, parfois c'est 5 ans, mais en grande majorité, les expérimentations, elles durent pas plus de 3 ans. Là, je pense que faire une expérimentation de 3 ans qu'on pourrait éventuellement prolonger après, sur cet échantillon de population qui est constitué par les immigrés, les populations sans papiers venues habiter en France, ça pourrait porter ses fruits et on pourrait trouver des financements, ne serait-ce qu'en se servant des mutuelles et assurances et en leur demandant de les financer. moyennant un apport d'argent de la part des États africains concernés. Mon objectif serait l'objectif que je voulais poser en mettant en avant cette idée serait que aucun centime ne doit provenir des budgets des États d'accueil de ces populations. Actuellement, on sait que les États de l'Union européenne et notamment la France accusent un déficit budgétaire aggravé. Donc ce sont des dépenses qui ne pourraient pas être couvertes par un apport financier de l'État français, mais elles pourraient être facilement couvertes si l'État français et les États africains concernés menaient des accords avec les assurances et les mutuelles qui souvent sont soit nationales, soit mondiales. Celle-ci aurait tout à gagner à financer, à accepter de participer à l'opération et à financer un tel processus. Ça ne coûterait rien à l'État français, ça coûterait au départ un peu d'argent aux États africains concernés, sachant que ces dépenses ne porteraient au départ que sur un échantillon de population. Cela résoudrait beaucoup de problèmes en France, puisque la France n'aurait plus à financer la couverture sociale, n'aurait plus à financer la survie des étrangers venus à s'installer sur le territoire français après 2015. On pourrait aussi étendre cette procédure à d'autres pays, par exemple du Moyen-Orient, comme la Syrie. Ça ferait des économies et ça permettrait à la France de progressivement donner le choix aux populations concernées de rester en France et progressivement d'acquérir la nationalité en ayant un rôle socio-économique reconnu et puis aux autres de décider librement de retourner dans leur État, sachant que si elles sont couvertes, elles disposent d'une couverture sociale. Elles ne pourront qu'être un apport de main-d'œuvre positif, complémentaire aux États africains concernés, et sachant qu'à l'issue de l'expérimentation, éventuellement renouvelée, donc de 3, voire de 5 ou 6 ans de durée, les États africains concernés pourraient, à terme, étendre la procédure, c'est le but, à l'ensemble de leur population. Cela augmenterait de manière importante les revenus des populations africaines, des États concernés, et donc cela créerait un effet boule de neige avec, bien sûr, un système vertueux à la Keynes, avec une augmentation de la consommation et donc des investissements des entreprises, et un décollage de leur économie. Voilà. Voilà donc cette idée qui pourrait, je pense, si elle était mise en place à l'initiative des États occidentaux, notamment la France, pourrait à terme porter ses fruits. Certes, cela serait difficile diplomatiquement dans un premier temps et nécessiterait l'intervention des ambassades françaises ou d'autres États européens avec la création de leur sein de services spécifiques, autant de dépenses institutionnelles qui coûteraient quand même cher, mais cela finirait, surtout si cela était pris au relais au niveau européen, par porter ses fruits et par extension à développer tout un système mutualiste autour de la santé et de la couverture des risques de chaque pays. D'abord les ressortissants sur le territoire étranger, puis par extension l'ensemble de la population africaine. Alors, bien sûr, ça demanderait un gros effort de la part des États africains, mais sachant que peut-être que dans la perspective justement de ne pas avoir à gérer autant de populations récemment arrivées sur leur territoire, les États européens y verraient une issue heureuse qui leur permettrait de régler ce problème justement des réfugiés et qui justifierait le coût institutionnel que cela pourrait leur apporter. Et puis, bien entendu, pour les États africains, cela conduirait largement à permettre que ceux-ci rationalisent leur budget dans le sens de plus de services à la population. Par ailleurs, cela allégerait considérablement le poids financier, comme je l'ai dit tout à l'heure, du phénomène de diaspora migratoire sur le continent européen, avec un effort financier moindre. Il faudrait au départ faire preuve de dureté et opérer un contrôle sévère aux frontières, et donc ne pas laisser entrer sur le territoire les personnes qui ne disposent pas de cette couverture sociale et renvoyer celles qui sont déjà sur le territoire et qui n'en disposent pas non plus également. Et cela pourrait être l'occasion d'obliger les instances internationales à épauler les États africains dans la quête vers la couverture sociale de leurs ressortissants, puis de leur population. Un système de mutualisation des risques et des financements via une réglementation internationale des mutuelles et autres organismes financiers privés adaptés aux États africains pourrait y contribuer. Car il est bien sûr, en l'état actuel des choses, où l'économie informelle est très présente en Afrique et où peu de personnes disposent même d'un compte en banque, de penser à un système redistributeur tel qu'il a été conçu chez nous. Alors, le financement viendra immanquablement dans un premier temps des États eux-mêmes, pourquoi pas grâce aux rentes pétrolières ou autres rentes. On le sait, les conditions du développement en France et de la création de la société moderne sont issues en majeure partie de la mise en place de l'actuel système de redistribution, aujourd'hui en péril, ainsi que de la naissance de la sécurité sociale. Enfin, je parlais du système bancaire des États africains. Le fait d'avoir à verser des prestations permettrait par les États africains permettrait d'accélérer le processus vers l'accès à une majorité de la population aux services des banques et donc à avoir un compte bancaire avec des moyens de paiement. Voilà donc pour cette idée. Cinquième idée pour permettre de développer les États africains avec l'exemple de l'économie de la Guinée équatoriale, ceci pourrait avoir une vraie politique forestière en destinant celle-ci exclusivement à la transformation, par exemple en développant l'industrie de fabrication d'éléments à partir du bois. Une nouvelle spécialité, la gestion de la forêt, doit tenir compte de l'importance de cette dernière comme ressource naturelle conformément aux accords internationaux. Je pense par exemple à la COP21, à laquelle beaucoup d'États, dont africains, adhèrent. Il faudrait également limiter et réglementer les exportations de bois exotiques en direction des pays tiers, afin que les États africains puissent eux-mêmes bénéficier de leur propre économie du bois. L'exploitation de la forêt ne devrait donc pas faire l'objet de monopoles, ni de la part des États étrangers, ni de personnes privées, mais devrait s'organiser sur la base de petits exploitants ou regroupements d'exploitants. La coopérative est dans ce cadre le meilleur mode d'exploitation. Grâce à l'émergence de ce statut juridique et mode de partage équitable entre exploitants des bénéfices, l'État peut restaurer son assiette fiscale. Dans ce cadre, un organisme d'État chargé de réguler le partage des terres agricoles et forestières, attentif à la mise en œuvre de moyens de prévention efficaces contre l'exploitation outrageuse ou les pollutions, peut être de rigueur. Enfin, il va de soi que l'exportation et l'exploitation de bois exotiques ne doit pas être du ressort des pays étrangers ni de leurs ressortissants, comme déjà dit. Sixième idée, valoriser les économies frugales. On a déjà expliqué ce que c'était que l'économie informelle. C'est une économie qui n'est pas comptabilisée dans la comptabilité nationale. C'est une économie qui est souvent formée d'échanges informels et de production qui ne fait pas l'objet d'un comptage de la valeur ajoutée produite, qui se joue essentiellement au niveau local, dans le troc ou le gratuit, ou alors l'économie au noir. Ces économies-là jouent beaucoup, c'est grâce à ces économies souvent que les populations des pays en sous-développement s'en sortent. Elles sont indéniablement, même si ce n'est pas reconnu officiellement dans les produits intérieurs bruts, créatrices de richesses. Elles doivent donc être intégrées au système de comptabilité nationale, et parce qu'elles sont sources de création d'emplois. Il en est de même de l'argent ou des biens matériels ou échanges issus de la diaspora située à l'extérieur du pays. Celle-ci aussi fait partie d'une forme d'économie informelle. Il en est de même de l'argent ou des biens matériels ou échanges issus de la diaspora située à l'extérieur du pays. Celle-ci est une véritable manne et joue beaucoup en faveur du développement. Ainsi, dans le village d'Ashbarou, au sud-est du Maroc, s'est développée toute une économie autour d'une initiative de jeunes Français d'origine marocaine dont les parents venaient de ce village. L'introduction du bus de leur lycée stéphanois, le lycée Étienne Mimard, a permis d'abord, en début des années 2000, de développer les échanges en donnant le droit aux villageois d'aller commercialiser leur production artisanale au souk de la plus grande ville la plus proche. Mais également de scolariser davantage, notamment les filles qui ont pu aller au lycée. Cela a créé un effet boule de neige. Et la région et les villages alentours sont aujourd'hui dotés d'infrastructures nécessaires aux soins à apporter à l'enfance, la petite enfance, la vieillesse et la santé. Une aide providentielle qui vient compléter celle apportée à l'État marocain, par l'État marocain dans une région longtemps oubliée, aux portes du désert. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, car il en existe beaucoup d'autres en Afrique. Ces projets-là sont beaucoup plus efficaces que l'offre d'aide au développement à proprement parler, associative et réglementée par les États étrangers d'où vient l'aide. Parce que les diasporisés connaissent profondément les milieux concernés et leurs besoins. Ils ne sont donc pas maladroits. Il est dommage qu'à défaut d'être cadrés, ces initiatives n'aient pas été prises en relais de manière plus institutionnalisée, ne serait-ce qu'en les intégrant elles aussi avec le poids en valeur des externalités positives qu'elles apportent, avec le poids en valeur, donc là je parle de chiffrage en comptabilité nationale, des externalités positives qu'elles apportent dans les systèmes de comptabilité nationale. C'est malheureusement le propre de l'économie informelle que de n'être toujours considérée que comme la cinquième roue du carrosse, alors qu'elle devrait être au contraire dans une optique de réencastrement, faire l'objet de l'attention la plus fine comme moteur numéro un du développement. C'est ici qu'intervient à nouveau la nécessaire critique que l'on doit faire du modèle de Rostow, qu'on a déjà faite lors de la première émission. Il n'y a pas un, mais des développements. La période dite traditionnelle où l'économie informelle est prépondérante et critiquée parce qu'elle n'est pas encore happée, voire détruite par l'apport du capitalisme mondialisé, ne doit pas être considérée dans l'histoire du développement d'un pays comme une phase antérieure où les esprits animaux et la non-civilisation régneraient juste avant qu'une découverte scientifique ne vienne la happer et la détruire. Elle est bien au contraire la condition même du take-off, bien davantage que l'application liée au progrès technique précédemment évoqué. De là, à parler de croissance inclusive, il n'y a qu'un pas à franchir. Et nous allons donc pouvoir enfin définir ce que c'est que la croissance inclusive. Mais auparavant, nous allons écouter une musique pour nous détendre un petit peu. Je vous laisse, avant la fin de la musique, deviner de quelle musique il s'agit et quel est le musicien ou le groupe concerné. A tout à l'heure, chers auditeurs.
Ah. Mis pequeños llamando mi carne y llama. Crisis is a key, my baby.
va para los amigos caché, verga lo moyo. Esto va para los amigos caché, anatame. Bobina ya que crisis, talibo puses, anatamo. Manga langa bocache. Amane, mandasu ya langa bocache.
Freddy Asobaga na la chef crew.
Chers auditeurs, chères auditrices, donc c'était, je vous le donne en mille, je vous le donne en cent. C'était difficile à deviner parce que c'est une musique que pas beaucoup de gens connaissent. C'est Petit Chabal, Anticrisis, et c'est une musique de Guinée équatoriale, puisque on était en train de parler de la Guinée équatoriale et de son économie. J'ai trouvé opportun de mettre une musique de Guinée équatoriale, et en plus elle parle de l'anticrise, donc l'anticrise économique, bien entendu. Voilà, donc je rappelle le titre, Petit Chabal, Anticrisis. Voilà, vous trouverez ça sur YouTube. Voilà, j'espère que ça vous a plu, la semaine prochaine on en écoutera d'autres. Voilà, donc je reprends un petit peu avec mon émission et le sujet. Le sujet de mon émission qui est celui des économies africaines, et nous étions en train de définir ce que c'était que la croissance inclusive. La croissance inclusive se définit par la prise en compte des caractéristiques de chaque territoire, de son histoire, de sa population, avec ses coutumes et ses modes de vie. Écoutez bien, c'est l'antithèse de beaucoup de politiques du développement qu'on a menées depuis plus de 50 ans. Elles ne se contentent pas de perspectives macroéconomiques, mais partent d'abord des économies locales. Et donc là, on est proche de ce que j'avais déjà expliqué. On est proche de Karl Polanyi et de sa théorie du réencastrement, qui nous dit que l'économie, ça commence d'abord par le territoire et par le local, l'extrêmement local. L'économie inclusive ne se contente pas de perspectives macroéconomiques, mais part d'abord des économies locales, comme je viens de le dire, autour d'une discipline scientifique qui est l'économie territoriale et du développement. Elle tient compte de toute création de richesses, même à toute petite échelle, pour qualifier l'activité économique globale du territoire, laquelle forme, par adjonction avec celle des autres territoires de l'État-nation concernée, une économie nationale. Dans cette logique, l'enjeu des critères et des indicateurs de comptabilité nationale est fondamental. Il se doit de prendre en compte toute création de valeur ajoutée, même contenue dans l'économie informelle. Ceci pour deux raisons. La première raison tient à des perspectives de nature sociétale. La prise en compte des économies informelles et locales, voire circulaires, tient compte de chaque singularité sur le plan économique, financier, mais également, et c'est le plus important, ethnique et culturel, voire religieux. L'enjeu est donc, c'est une économie qui s'expose à obtenir le consensus, un consensus important auprès d'une population la plus nombreuse possible. Et également, qui dit consensus dit implication des uns et des autres. Alors que jusqu'ici, beaucoup d'auteurs ont montré que l'aide au développement et les projets de développement conduisaient souvent à un désintérêt des populations et qu'elles étaient vouées à l'échec parce que justement elles n'étaient pas inclusives, parce qu'elles ne bénéficiaient pas d'un consensus, c'est-à-dire de l'acceptation par le plus grand nombre, et que donc le contrôle social qui était effectué dessus n'était pas ne prenait pas assise dans la population. Et parce qu'il en résultait une très très faible implication des uns et des autres. Or, beaucoup d'auteurs du développement l'ont montré, une politique économique et sociale, une politique du développement, qu'elle soit mise en place dans un pays déjà développé ou dans un pays qui l'est moins, ne peut avoir du succès et ne peut réussir que si elle bénéficie de l'implication du plus grand nombre de personnes. Et non pas des gens qui viennent de l'extérieur, de pays étrangers, pour aider au développement, mais bel et bien des populations qui habitent le territoire concerné. L'enjeu dans tout ça, c'est le politique. C'est de retrouver le politique dans des territoires où il a été abandonné. Parce que lorsque les gens s'impliquent dans l'économie de leur territoire, en ne travaillant pas au noir et en contribuant à une prise en compte des richesses créées et donc à un effet boule de neige avec création d'emplois et création de richesses sur richesses, à ce moment-là, ils s'intéressent à la vie politique à défaut de leur nation au départ de leur territoire, et puis après ça va à la nation. L'enjeu est donc de retrouver le politique dans des territoires où il a été abandonné. Qu'est-ce que le politique ? La définition ici adoptée inclut des notions d'éthique et de construction positive et civilisationnelle. Elle exclut les prises de pouvoir illégales ou bien ne reposant que sur les intérêts d'une petite partie de la population. Elle part de la civilisation et du désir concrètement réalisé de vivre ensemble. La deuxième raison tient à la nécessité de faire du développement africain un processus économique au sens primaire de maison du peuple, au sens de Aristote lorsqu'il a écrit son livre L'économique. Ce sens primaire est inséparable des exigences contemporaines légitimement identifiées sur le plan international en matière environnementale et écologique. Ce processus ne se tient absolument pas dans les arcanes du pouvoir, des intérêts de pouvoir qui se sont instaurés dans le cadre du libéralisme économique et du capitalisme. Enfin, du moins, ce qu'on appelle le libéralisme, qui est en fait une forme de capitalisme monopolistique ou oligopolistique déguisé. Forcément, ce processus, s'il se mettait en place dans les territoires africains, serait inséparable des exigences contemporaines légitimement identifiées sur le plan international en matière environnementale et écologique. Je crois que je l'ai déjà dit, ça. Le continent africain, pris à repose-poil suite aux guerres de colonisation, puis les processus qui ont lentement débarrassé ce dernier des puissances occidentales en tant que propriétaire légitime, en les laissant se débrouiller tout seuls après les guerres de décolonisation face au pillage des grandes firmes internationales, entame son processus de développement à l'envers par rapport aux pays occidentaux. Ainsi, via l'Union européenne, Les pays européens tirent tant bien que mal les pays de l'Est de l'Europe et ceux du Sud, un peu moins riches et développés que les autres, dans la voie de la prise en compte des économies territoriales et de la prise en compte de la contrainte environnementale dans les modèles macroéconomiques, après avoir quelque peu abusé des ressources naturelles dans un mécanisme de réparation. Dans la même temporalité, les États africains, eux, entament leur développement par et pour l'environnement et le paysage, malgré bien sûr que beaucoup de territoires soient pollués quand même par des activités économiques qui n'appartiennent pas aux Africains eux-mêmes. Je dis, ils entament leur développement par et pour l'environnement et le paysage, je dis, ils ont la possibilité de le faire parce que leurs économies ne sont pas aussi développées que les nôtres, donc ils n'ont pas autant de mécanismes de réparation qui coûtent cher à mettre en place. Chez nous, on voit bien qu'il y a beaucoup de politiques qui sont mises en place de réparation qui coûtent très cher à la fois aux entreprises et à l'État, parce qu'il faut remplacer certains matériaux par d'autres, certaines utilisations qui étaient productives par d'autres, qui le sont moins, pour aller vers davantage de qualité, toujours dans une optique de performance environnementale. En Afrique, le coût est beaucoup moindre. Et par ailleurs, les États africains peuvent bénéficier de l'évolution des législations internationales mises en place notamment dans le cadre des COP et pas que, et également de toutes les chartes qui visent à mettre en place de manière concrète le développement durable dans le monde. Et les États africains, peu ou prou, même si on n'est pas obligé, il n'y a pas d'obligation d'obéir au droit international à tout prix, doivent quand même se mettre aux normes, ne serait-ce que pour pouvoir échanger avec les pays avec d'autres pays qui seraient importateurs de leur production. Et donc, en quelque part, les États africains ont de la chance parce que ils commencent leur développement avec toutes ces données. Et donc, ils n'auront pas le coût de réparation à payer, hormis sur des sites où c'est très pollué, bien sûr, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça, c'est pas de leur faute, les multinationales ont beaucoup pollué. Enfin, c'est pas toujours le cas. Il y a quand même des entreprises proprement africaines qui polluent aussi. Mais il y a beaucoup de multinationales qui ont pollué en Afrique. Et donc, celles-ci pourraient également payer le coût de la réparation. Dans la même temporalité, on assiste donc tant bien que mal, et par la force des choses, à la mise en place d'un double mouvement des deux côtés de la barrière, qui, à terme, soyons positifs, devrait conduire à un alignement de tous les États du monde. C'est ce que j'appelle le nouvel alignement, et nous verrons beaucoup plus tard que je préconise aussi ce nouvel alignement en matière monétaire et financière. Et cela pourrait l'être à condition que des politiques volontaristes en faveur de ce dernier soient pratiquées. Ce double alignement, à la fois environnemental et monétaire et financier, devrait mener vers une économie de non-gaspillage, où la frontière entre économie informelle ou de subsistance et la macroéconomie, avec tout son lot de politiques industrielles, financières, budgétaires, monétaires, institutionnelles, est pratiquement inexistante, tant sont imbriqués entre eux les enjeux très locaux de villages, territoriaux, de régions, de nations ou bien de grands ensembles géopolitiques pour rejoindre l'économie monde. Et lorsque je parle d'économie institutionnelle, je veux parler des infrastructures et des organisations que souvent l'État met en place. Ça coûte cher, mais c'est souvent le prélude, comme le veut l'économie institutionnaliste, au développement des territoires. Ainsi, c'est l'Afrique qui, la première, donne l'idée de construire de nouveaux modèles de comptabilité nationale prenant en compte les externalités positives de nature sociétale, mais aussi écologique, en tant que création de richesses à prendre en compte dans les indicateurs nationaux, les fameux produits intérieurs bruts. Puisque, je le rappelle, ce qui est valable en Afrique au niveau territorial l'est aussi dans les pays les plus développés, qui eux souffrent non pas de non-développement, mais de trop de développement, et un peu anarchique, où on ne respectait pas les règles, notamment environnementales. Voilà. Ainsi, des mécanismes comme l'entraide ou la valorisation de certains modes de production traditionnels de village en tant que producteurs de biens à forte valeur ajoutée sont à valoriser. avec la mondialisation accrue des micro-échanges que génère l'utilisation de plateformes Internet, de nouveaux marchés s'ouvrent. En même temps, chacun se doit de déduire les externalités négatives, celles qui créent des problèmes sur l'environnement, la société ou le bien-être mesuré en tant qu'indicateur, en tant que reflet de phénomènes comme la violence ou la délinquance. De ces mêmes indicateurs de richesse nationale, afin progressivement que les pratiques qui posent problème soient corrigées et soient remplacées par des viviers à externalités positives. Et j'allais rajouter, au crédit de l'Afrique, que les Africains sont très très ingénieux et très créatifs, et que sur tous les plans, et notamment sur le plan de l'informatique, puisque maintenant tout le monde est pourvu là-bas de matériel informatique, enfin tout le monde, beaucoup de jeunes, et il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, et des entreprises qui font leur entreprise à défaut de locaux, et qui vendent leur production sur Internet. Et elles peuvent donc être achetées dans le monde entier. Et donc cela pallie quelque part, sert plus ou moins de manière plus ou moins importante à pallier au déficit d'infrastructures à proprement internationales qui et de ou alors de coopératives permettant d'inonder les marchés européens et transatlantiques des productions africaines. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, encore une fois. Et encore une fois, il faudrait aussi qu'un tissu de coopératives permettant d'organiser l'acheminement, le conditionnement tout d'abord, puis l'acheminement des productions africaines dans les pays les plus développés, puisse se mettre en place. Aujourd'hui, grâce à l'inventivité des Africains, on commence tout juste à assister à ce genre de phénomène, mais cela reste quand même malgré tout marginal si l'on se réfère à la capacité d'exportation des infrastructures financées par les grandes multinationales. Et donc, il faudrait, tout comme c'est le cas dans nos pays les plus développés, créer des législations et des réglementations permettant progressivement de rendre le pouvoir des multinationales moins important. Pourquoi pas, en scindant celles-ci et en leur donnant un aspect plus humain et une forme juridique différente qui s'adapterait à chaque territoire et qui agirait à échelle moyenne à défaut plutôt que d'agir à grande échelle. Cette échelle moyenne pourrait relayer les petites échelles. Pour ce soir, j'en ai terminé. Nous continuerons la semaine prochaine en parlant du modèle inclusif de développement asiatique, puisque l'Asie est un bon exemple de continent où beaucoup de pays se sont développés au départ grâce à leur économie inclusive. Pas tous, bien entendu, mais un certain nombre. Et pour certains, il y a eu une grande réussite. Et donc, on essaiera de comparer l'Afrique à l'Asie, à certains pays d'Asie, la semaine prochaine. En attendant, chers auditeurs, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain. À très bientôt.